Alors,
Juste, j'ai juste trois choses à dire. D'abord, je voulais insister sur la qualité du travail qui a été fait par tout le monde. Hein. Je ne veux pas déprécier le travail des anciens. Mais je voulais insister sur le sérieux avec lequel les jeunes doctorants qui sont là à ma gauche pour le moment ont pris la chose. Quoi. Voilà. Là, on s'est vu de temps en temps. Enfin, j'ai pu constater à quel point il y avait... à la fois l'angoisse de faire l'expérience qu'elles ont faite, mais en même temps l'expertise. Quoi. Et j'espère que vous avez été sensible comme moi à l'expertise. Hein. Peut-être qu'il faut un peu d'angoisse pour arriver à l'expertise, mais en tout cas là, ce qu'on a vu, c'est l'expertise. Donc je voulais vraiment les remercier. Elles ont dit quelque chose qui, à mon avis, est très important, qui traduit un peu, j'allais dire, l'esprit de la communauté de recherche sur le travail, hein, avec cette idée que c'est forcément pluridisciplinaire, forcément, ce qui ne veut pas dire le contraire des disciplines d'ailleurs, hein, ça veut dire que chaque discipline peut se développer au contact et dans la confrontation avec les autres. Et puis ils ont dit quelque chose qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est que dans notre domaine, pour faire de la recherche, il faut d'une certaine manière réinventer les rapports entre les chercheurs et les professionnels, réinventer les rapports entre les experts, j'allais dire les experts scientifiques, et puis ces experts du quotidien, qui sont ceux qui sont confrontés aux problèmes réels tous les jours et qui ont des connaissances spécifiques, originales, avec lesquelles nous devons apprendre à faire, pour y compris faire de la recherche de qualité. Donc il y a une certaine conception de la communauté scientifique dans ce champ de recherche qui, à mon avis, est originale. Quoi. Voilà. C'est une chose. La deuxième, c'est que... comment dire ? Ça a été un peu dit, et moi je vis ces choses-là de l'intérieur, elles me traversent. On est toujours sur les questions du travail, à la fois du côté du malaise, hein, parce que tout ne va pas bien dans le travail humain, et puis on est dans la prospective, au bon sens du terme, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va arriver, que va devenir le travail humain. Voilà. Alors, je voudrais dire que c'est un peu un paradoxe intéressant. Je pense que ce colloque l'a bien témoigné de ça. C'est-à-dire, c'est sans doute parce que beaucoup de possibilités tapent à la porte. Quoi. C'est-à-dire qu'au fond, pour arriver à travailler, il faut travailler collectivement. Pour arriver à travailler aujourd'hui, il faut de l'initiative, il faut de la pensée, il faut de l'échange, il faut que ça ait du sens, il faut du corps ensemble. Enfin, vous voyez, il y a un monde qui pousse, quoi. Et évidemment, avec un monde qui pousse, les contraintes sont d'autant plus difficiles à supporter. C'est-à-dire qu'au fond, si c'est difficile, c'est parce qu'il y a vraiment du nouveau possible. Ce n'est pas difficile simplement parce qu'il y a de la contrainte. C'est difficile parce que de la contrainte s'exerce à un moment où des possibilités gigantesques sont apparues de travailler autrement et même de vivre autrement, hein, de vivre dans la pensée et dans le corps, ensemble, collectivement. Ça pousse très fort. Et alors du coup... ben, comme le disait joliment Friedman, et je pense que c'est toujours juste, peut-être que dans certaines conjonctures historiques, les travailleurs sont plus grands que les tâches. Quoi. Voilà. Et ça, évidemment, ça ne fait pas une causalité simpliste de la souffrance. Les gens ne souffrent pas pour simplement parce qu'on leur impose. Et ils sont à l'étroit, ce qui n'est pas la même chose. Quoi. Et donc, on peut à la fois être lucide sur les difficultés et ne pas forcément être pessimiste et... Je me rangerai vraiment au point de vue de Georges Amart. L'avenir est imprédictible. Je pense que c'est extrêmement important de conserver cet esprit des choses. Quoi. L'avenir est imprédictible et le dernier mot n'est pas dit en matière de travail comme dans aucun autre lieu, mais sans doute encore plus en matière de travail où les attendus et les inattendus des situations sont vraiment extrêmement mélangés. Quoi. Puis troisième point, et j'ai terminé... quand on va faire le travail, les uns et les autres, mais enfin aussi Alain Berthoz et moi, puisqu'on a eu la folie de s'engager dans cette aventure, il va falloir travailler collectivement, comme on l'a fait jusqu'ici. Et au passage, je voudrais remercier tous les collègues, tous ne sont pas dans la salle, mais qui ont été associés depuis maintenant 2 ans à cette aventure-là. Il a fallu de la patience, il a fallu de la détermination, il a fallu passer beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise sur la table. Et je pense qu'il va falloir trouver les moyens, on se sent un peu comptable hein, maintenant, de ce dynamisme qui s'est créé.
On n'a pas de dette. Hein.
On n'a pas de dette. On est comptable, mais sans dette. Voilà. Et bon, on a essayé de trouver les réseaux qu'il faut pour poursuivre. La présence de Catherine Courtet, de ce point de vue, assez importante. Beaucoup de thèmes ont été abordés. Moi, j'en retiendrai deux sur lesquels j'ai envie d'insister parce qu'ils concernent justement des objets de recherche qui sont des objets d'interface entre les chercheurs professionnels et les praticiens qui sont sur le terrain à l'épreuve de beaucoup d'enjeux quoi, professionnels. Pour moi, il y en a deux. Je retiens, oui, il faut choisir, il faut insister un peu. Ce matin, ça est venu de la poste, si je peux dire, par Madame
Feuillas.
Voilà. Vous avez vu, là, vous avez quelqu'un qui exerce des grosses responsabilités, qui, devant des analyses des difficultés du point de vue des chercheurs, a été capable de dire, on a du mal, quoi. Et on a du mal avec une question, c'est la question des rapports entre l'évaluation individuelle et l'évaluation collective. Quand vous avez un professionnel qui a des responsabilités aussi importantes que ça, qui pose un problème pratique comme celui-là, et quand vous avez les forces de recherche qui existent pour travailler sur les rapports entre individuels, collectifs et évaluation tels que nous les avons, si nous ne faisons pas la jonction sur cette question, alors là, il y a quelque chose d'une occasion perdue. Donc j'insisterai volontiers sur cette question. Vous voyez, c'est pas simplement le rapport entre individus et collectifs, c'est dans les entreprises, on fait de l'évaluation, on l'a fait massivement de manière individuelle, et pourtant, la qualité du travail et même la productivité des organisations, elle est très très liée aujourd'hui à la performance collective. Alors comment on fait avec ça ? Elle pose une question pratique majeure, et c'est une immense question théorique. Donc j'insiste pour qu'on travaille là-dessus. Et j'insiste pour qu'on travaille sur une deuxième question. Ça a été aussi souligné, je ne me souviens plus par qui d'ailleurs, mais j'allais dire peu importe au niveau du travail collectif où on est. La question de la prévention, santé-travail, prévention. Comment prévenir ? Voilà. Et on a vu que prévenir, c'est compliqué, la prévention. Eh bien, quelqu'un a dit, ah oui, ça y est, c'est Philippe Douillet de l'ANACT. Il a dit, au fond, il ne faut pas simplement faire de la prévention, il faut faire de la recherche sur la prévention. C'est-à-dire, comment la prévention s'opère ? Comment elle échoue parfois ? Comment elle réussit ? À quelles conditions elle peut réussir ? Je pense que déployer des efforts et des forces de recherche sur les pratiques de prévention qui sont en train de se développer, évidemment sur les TMS, mais aussi par exemple sur les ainsi nommés, parce que moi je prends toujours ça avec des pincettes, risques psychosociaux, je pense que faire du travail de recherche sur les pratiques de prévention en associant des chercheurs professionnels et des praticiens de la prévention, des préventeurs, les médecins du travail, les inspecteurs du travail, eh bien, en associant côté recherche des historiens, des psychologues du travail et bien d'autres, je pense que cet objet de recherche-là, qui est un enjeu pratique extrêmement fort pour, je pense, les 20 ans qui viennent, je pense que c'est un objet majeur. Voilà, si je dois retenir, moi, deux préoccupations, il faut bien choisir, c'est celle-là que je retiens. Merci à vous et je passe la parole à Alain Berthos.
Merci beaucoup. Donc, simplement quelques remarques. D'abord, je remercie Catherine Courté pour nous avoir fait cette description de ce qui se passe à l'ANR et des propositions de thèmes. Et je voudrais, moi, insister sur quelque chose qui vraiment me tient à cœur, puisque ça a été aussi, non seulement toute ma vie, mais toutes les approches que j'ai pu faire à la fois en physiologie du travail autrefois, depuis que je suis passé de chez Jacques Leplat, psychologue, à chez Wissner, mais aussi dans mon laboratoire, c'est l'aspect fondamentalement multidisciplinaire. Je pense qu'on est encore dans un pays dans lequel les cloisonnements sont trop importants. Je me réjouis que le département SHS de l'ANR notamment prenne toutes ces initiatives, mais je pense, et elle le sait, je le dis simplement pour que ça soit public, qu'aujourd'hui, et on l'a entendu dans le colloque, ces problèmes demandent une vraie coopération interdisciplinaire, et pas seulement entre SHS et les sciences de la vie, c'est fondamental, mais aussi avec ce qu'on appelle les STIC, c'est-à-dire les sciences et technologies de l'information, c'est-à-dire une vraie, et les sciences de l'ingénierie. Et donc, il y a là vraiment un grand défi pour que ces questions soient vraiment abordées et qu'on n'ait pas simplement, disons, un expert caution dans une commission disciplinaire, mais qu'il y ait vraiment un travail commun. Si on ne le fait pas comme ça, on n'y arrivera pas. Donc, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je sais que SHS et l'ANR fait un effort, mais nous ne répéterons pas assez dans notre pays à quel point l'interdisciplinarité est nécessaire et à quel point il faut aujourd'hui donner à des jeunes la possibilité de faire, dans les domaines dont on a entendu parler dans le colloque, des thèses pour les chercheurs, mais dans les entreprises aussi des études, et nous travaillons ensemble avec la RATP et Georges Amar sur la prospective, des travaux qui soient codirigés. Il y a les outils, les thèses codirigées, ça existe. Moi, dans mon labo, on fait faire des thèses avec des philosophes, des spécialistes du théâtre, des spécialistes des maths. Elles sont toujours codirigées entre des experts de disciplines complètement différentes, et ceci dans l'esprit de créer ces nouveaux jeunes qui seront dans les doubles cultures. C'est un vrai défi sur lequel, je crois, il y a les outils. Et moi, ce que j'ai entendu me renforce dans cette idée, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, l'autre remarque que je voudrais faire, c'est que, bien qu'il n'y ait eu aucun représentant, disons, du monde ouvrier dans notre colloque, et il y a beaucoup de choses que nous avons écartées, bien sûr, nous n'avons pas oublié les travailleurs. Et je voudrais en profiter pour remercier non seulement le CNAM, mais aussi Yves Clos et Madame Prunier, qui nous a donné l'occasion hier soir à très peu d'entre nous, mais l'exposition est ouverte à tous, d'aller voir cette exposition extraordinaire de photographies de travailleurs et qui est actuellement au musée du Conservatoire des Arts et Métiers. Donc merci pour cette hospitalité. Et je voudrais donc en profiter pour remercier aussi toute une série de gens, donc non seulement le service de communication du CNAM et le CNAM, mais aussi ici, non seulement bien sûr notre comité d'organisation avec qui nous avons fait un travail formidable pendant 2 ans, on ne se connaissait pas tous au début, puis on a appris dans une vraie gestion collective avec la sagesse d'Yves Clos qui nous a bien aidé là-dessus à travailler ensemble, mais aussi ceux qui ont travaillé dans notre laboratoire en particulier. La première que je voudrais vraiment remercier très profondément, c'est Hélène Leniston qui a mis un point d'honneur à disparaître juste au moment où elle a deviné que j'allais la remercier. Mais enfin, on va quand même l'applaudir. Et Hélène Leniston est titulaire d'un master de droit international et elle nous a, depuis 1 an et demi, aidé à monter tout ce colloque. France Maloumian, que vous avez vu aussi, qui a aidé pour les PowerPoints. La régie du Collège de France, ils sont là-haut dans leur aquarium, mais vous les avez vus ici. Rien dans cette maison ne pourrait avoir lieu sans cette équipe formidable de gens généreux et compétents. Et puis, je voudrais aussi, bien qu'ils ne soient pas là, remercier les personnes du laboratoire, parce que ça a été un travail très collectif du labo ici, et qui nous ont aidés pour préparer les repas, etc., et toute l'organisation, Madame Benita, toute l'équipe du collège. C'est une maison collégiale. Et puis, je voudrais terminer en vous disant que ce moment est donc la fin d'un cycle d'enseignement, de mon enseignement du Collège de France cette année. Et vous savez que l'enseignement au Collège de France, c'est Sisyphe, puisque nous sommes censés enseigner chaque année sur un sujet nouveau, sur lequel nous savons peu, qui est aux frontières, et un certain nombre d'entre nous relèvent ce défi. J'avais choisi cette année le sujet de l'identité. En fait, on passe un peu notre thèse chaque année au collège. Et lorsque nous avons commencé à inscrire ce colloque dans le cadre des séminaires de l'enseignement, puisqu'en dehors de l'enseignement formel, il y a des séminaires, nous avions introduit ce mot identité, et je dois dire que je suis très heureux qu'on ait tous fait ça, parce que ce thème, comme cela vient d'être rappelé, a été un des fils rouges de ce colloque. Et il se trouve que la première diapo que j'ai montrée au mois de janvier dans mon cours était une diapo qui reprenait le livre de Ricoeur, Paul Ricoeur le philosophe, qui a pour titre « Soi-même comme un autre ». Et que les premières sessions avaient été l'identification de cette réflexion faite par des philosophes, mais aussi de nombreux chercheurs, sur cette interaction entre l'identité et autrui. Et en effet, nous avons vu dans ce colloque à quel point aujourd'hui le problème de l'identité au travail se pose avec autrui et dans le cadre de la recherche collective, et qu'il y a là vraiment un champ nouveau pour lequel il y aura besoin sans doute d'un renouveau, un redéveloppement notamment d'une discipline qui existe encore trop peu, mais très peu, qui est la psychologie sociale. Et ça n'est pas la sociologie, ça n'est pas la psychologie. Et au fond, la réflexion, c'est qu'il va falloir refonder, il va falloir supprimer ces découpages, psychologie du travail, physiologie du travail, sociologie du travail, psychosocial. C'est toute une réflexion que nous allons avoir à faire ensemble. Et puis je termine en disant simplement que moi j'ai eu la chance il y a assez longtemps, d'entrer à l'école des mines de Nancy. Et c'était l'époque où Bertrand Schwartz, qui était le fondateur au fond de la formation permanente et que nous avions invité à venir ici, et qui est donc mon maître dans beaucoup de domaines, était directeur de l'école des mines. Et c'est l'époque où il avait mis en œuvre à l'école des mines, non seulement il vidait l'école pendant 4 mois chaque année de tous les élèves pour nous envoyer la première année faire un stage ouvrier, la deuxième année un stage de contremaître et la troisième année un stage d'ingénieur. Et il nous avait réunis, je m'en souviens, à la première séance de la première année, en nous disant, écoutez, bon, vous avez fait un concours, vous êtes élève de grandes écoles, très bien, vous allez apprendre des choses. Et c'était en 1963 ou quelque chose comme ça. Il a dit, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est que tout ce que vous allez apprendre dans cette école sera caduque. Et la seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'apprendre à apprendre. C'est formidable quand on se souvient du contexte de l'aspect normatif de l'enseignement dans les écoles et en général en France à l'époque. Bertrand Schwartz continue à travailler, il a 90 ans, il continue à travailler avec les entreprises pour sa méthode à lui de travail, comme il n'a pas pu venir, je voulais l'évoquer ici, qui consiste justement à aller chercher chez les travailleurs eux-mêmes par des méthodes tout à fait extraordinaires, le savoir, pour ensuite élaborer des concepts. Et je voulais, comme je l'ai fait le premier jour pour Alain Wissner, Jean Scherrer, Bernard Metz, Jacques Leplat, rendre hommage aussi à Bertrand Schwartz, qui a formé toute une série d'entre nous. Il a aussi formé Jean-Claude Trichet, d'ailleurs, qui était mon filleul à l'époque à l'École des Mines. Et il nous a laissé à l'école, à nous deux, puisque j'ai pu faire la psycho à l'époque, en mettant les mines, ou à la place des cours de haveuse, il a laissé la liberté. Il a laissé à ceux qui avaient envie de faire des choses la possibilité de faire ce qui nous plaisait, non pas plaisait, mais comme disent les Chinois, de suivre notre pente. Et là aussi, il y avait chez cet homme, et il y a chez Bertrand, avec qui j'ai déjeuné récemment, cette idée de la capacité de chacun des jeunes. Donc je voulais insister là-dessus. Je voudrais aussi remercier M. Jacques Ralit, qui a bien voulu assister à toutes nos réunions. Vous avez été ministre du Travail et de l'Emploi, vous êtes sénateur, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a accompagné la création du théâtre d'Aubervilliers. Et je trouve que votre présence aujourd'hui est extrêmement importante pour nous, et je vous en remercie. Voilà, donc merci beaucoup. Bertrand Schwartz disait, il faut apprendre à apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris et je vous remercie tous.
Je voudrais dire juste un dernier mot, parce que je ne t'ai pas assez dit. Je voulais remercier vraiment Alain Berthoz, parce qu'il nous a accueillis au Collège de France, dans cet amphithéâtre qui est assez incroyable, hein, qui est un très bel amphithéâtre. Et je pense qu'on a vécu ici, ensemble, des moments qu'on n'oubliera pas si facilement. Je voulais dire aussi que, puisque vous parliez de Jacques Ralit, qu'il a pris l'initiative qui finalement nous relie un peu tous, puisqu'il a fait dans le théâtre d'Aubervilliers venir depuis maintenant, c'est la deuxième année, je pense, la troisième année, le Collège de France, puisque des professeurs du Collège de France vont régulièrement au théâtre d'Aubervilliers faire des conférences, des causeries. Jacques Ralit, il aime bien parler de causeries. Alors, les professeurs du Collège de France vont faire des causeries au théâtre d'Aubervilliers, et la population d'Aubervilliers, lui est, je pense, très gré d'avoir pu organiser ces choses-là. C'est quand même magnifique que le Collège de France fasse ce détour par Aubervilliers, parce que sans doute, il y apprend aussi beaucoup.
À propos de travail collectif, je vous signale qu'on ne se connaissait pas, mais qu'un des résultats, comme vous avez pu le constater, de ce colloque, c'est aussi la naissance d'une amitié.